m'intéresse, c'est la philosophie de l'esprit. Donc ça ne va pas être de savoir est-ce que le soi est de nature corporelle ou non, quel est le principe d'identité personnelle, etc. Moi, ça va vraiment partir de la question, des questions qui sont plus psychologiques, et de savoir des questions sur la conscience de soi, non pas sur le soi. Et donc je vais plus ou moins faire aucun présupposé sur quelle est la nature du soi, quelle est l'identité personnelle. Toutes ces questions, moi, je les laisse de côté. Et vraiment, je m'intéresse juste à la question de la conscience de soi, c'est-à-dire comment je m'appréhende moi-même, comment j'ai conscience que ceci, et en plus particulièrement, comment j'ai conscience que ceci est mon corps. Et pour ce faire, voilà, donc je vais même pouvoir commencer. En fait, je vais me baser sur une approche naturaliste, c'est-à-dire que je vais m'intéresser aux données trouvées par les scientifiques, et j'ai essayé de voir comment finalement ce que nous dit la psychologie ou la psychiatrie peut nous éclairer sur des questions sur la conscience de soi. Alors là, je suis très fière de ma photo parce que c'est moi qui ai pris cette photo de ce coq qui se contente devant un miroir, et très souvent on dit que le summum de la connaissance, reconnaissance de soi, c'est quand on est capable de se reconnaître devant un miroir. Donc on peut peut-être faire des suppositions sur savoir si les coqs sont capables de se reconnaître. Mais je vais en fait très peu parler des miroirs. Et...
je ne comprends pas pourquoi il est...
C'est pas très grave.
Hier, on est arrivé.
Donc voilà, toutes les questions que je ne vais pas traiter, en fait, c'est les questions ontologiques de savoir est-ce que je suis un corps ou est-ce que le corps m'appartient. Si j'ai un corps, lequel ? Quels sont les critères pour dire lequel est le mien ? Je ne vais pas non plus m'intéresser aux questions éthiques ou légales, par exemple de savoir si on peut avoir des droits de propriété vis-à-vis de son propre corps, ou savoir à qui appartient le corps humain, ou si on peut le commercialiser, etc. C'est aussi tout un champ de questions très intéressantes, surtout ces derniers temps avec les découvertes en biologie et en sciences médicales, mais pour autant, ça ne va pas du tout être mes questions. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est m'intéresser aux questions psychologiques, c'est-à-dire de savoir est-ce que finalement j'ai un sentiment d'appartenance de mon corps, est-ce que ça se traduit au niveau de la phénoménologie, et si j'en ai un, quelles sont les bases de ce sentiment d'appartenance du corps, et plus particulièrement comment ça va se lier au fait d'avoir des sensations corporelles, au fait de pouvoir bouger et contrôler ce corps, et au fait d'avoir une sorte d'attitude affective vis-à-vis de mon corps, du fait par exemple que je vais vouloir protéger mon corps plus que je ne voudrais protéger un objet dans le monde. Et la question, dernière question, c'est de savoir est-ce que ce sentiment d'appartenance, est-ce que je l'ai uniquement pour mon propre corps ou est-ce que je peux l'avoir pour autre chose ? Ça sera pour aujourd'hui, et demain je m'intéresserai aux questions épistémologiques et plus particulièrement en relation avec ce qui a été nommé en philosophie le principe d'immunité à l'erreur, d'immunité contre l'erreur d'identification du sujet, qui est un principe qui dit en gros, par exemple, quand je dis « j'ai mal », ça n'a pas l'impression que ça a beaucoup de sens de dire « mais es-tu sûr que tu es la personne qui a mal ?» Donc ça, c'est ce que j'aborderai demain. Mais aujourd'hui, je vais vraiment me limiter aux questions psychologiques. Alors, plus particulièrement, il y a trois questions que je vais soulever. La première question, c'est de savoir, comme je vous ai dit, est-ce qu'on a un sentiment d'appartenance du corps qui se traduit au niveau phénoménologique ? Est-ce que je ressens, est-ce que j'ai cette expérience de ce corps comme étant le mien ? Et ou est-ce que c'est plutôt une question de jugement, finalement ? Je juge que c'est mon corps, mais au niveau purement phénoménologique, il n'y aurait pas un vécu du sentiment d'appartenance. Après, je vais me demander comment on pourrait étudier le sens, le sentiment d'appartenance du corps. Et enfin, je cherchais à comprendre les bases du sentiment d'appartenance du corps. Donc, première question. D'abord, je vais faire quelques distinctions. Et je pense qu'il est important de distinguer, quand on parle en anglais, on a tendance à dire « the sense of ownership ». Mais il faut bien distinguer, et ce qui laisse assez flou le fait de savoir si ça va être au niveau plutôt du jugement, de la croyance, ou au niveau de l'expérience. Et donc il faut bien distinguer le jugement d'appartenance du corps, qui est vraiment une attitude doxastique, une croyance C'est mon corps, je sais que c'est mon corps. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que je ressens ce corps comme le temps le mien. Ce qui est important, l'idée, c'est vraiment ici de, qu'il y a une sorte de... Cela me fait un certain effet que ce corps soit le mien, d'appréhender ce corps comme étant le mien. Et dans la littérature, on peut trouver en gros trois différentes théories de ce sentiment d'appartenance. Il va y avoir la théorie éliminativiste, qui par exemple est défendue par José Luis Bermúdez, qui lui va dire il n'y a que du jugement, il n'y a pas du tout de feeling, et ça ne se traduit pas au niveau de la phénoménologie. Il va y avoir les gens qui sont des réductionnistes, dont je fais partie, qui va dire bon, il y a les deux, mais il faut essayer d'expliquer ce feeling of ownership, ce sentiment, quelle est son origine. Et puis il va y avoir ceux qui vont dire, qui vont, comme Sean Gallagher, qui par exemple vont dire il y a ce sentiment d'appartenance du corps, vraiment vécu d'appartenance du corps, mais il est, on ne peut pas le réduire à quoi que ce soit d'autre. C'est juste un data, c'est une sorte de given, de données, et il ne faut pas essayer de le réduire à d'autres choses. Donc je vais aller un peu plus en détail sur chacune des vues. Donc la théorie éliminativiste, elle va dire ça ne me fait, il n'y a pas une phénoménologie de « c'est à moi », d'une certaine manière. Et effectivement, si vous vous concentrez juste sur vos expériences corporelles, sur la manière dont vous appréhendez votre corps, vous ressentez par exemple la position de vos membres, vous pouvez ressentir le sentiment de toucher de votre habit, vous pouvez avoir plein de sensations, voire froid, chaud, etc. Mais ce n'est pas évident que quand vous faites vraiment attention à votre corps, vous avez conscience que c'est votre corps. Vous savez que c'est votre corps, c'est une sorte de connaissance, on va dire, théorique, vous croyez que c'est votre corps, mais pour autant, ce n'est pas évident que ça se traduise au niveau de la conscience, à un niveau plus primaire, disons. Alors, on pourrait à partir de là conclure que finalement, il n'y a pas ce fameux sentiment d'appartenance du corps, et que ça serait juste une question de jugement, de croyance, et c'est la théorie donc défendue par Bermúdez qui dit, je cite, On the deflationary conception of ownership, the sense of ownership consists first in certain facts about the phenomenology of bodily sensation, and second, in certain fairly obvious judgments about the body, which we can term judgment of ownership. So, pour Bermúdez, ce qu'il veut dire, c'est que, en gros, on a nos sensations corporelles plus jugement d'appartenance du corps. Mais qu'au niveau des sensations corporelles, il n'y aurait aucun composant qui reflèterait la notion de soi. Alors, à ça, on pourrait dire, il y a eu des intuitions qui remontent en fait jusqu'à William James, qui disait, je cite, « Certain parts of the body seem more intimately ours than the rest. » Et on retrouve cette même intuition chez Brian O'Shaughnessy, qui dit « Why my gallbladder is a part of me that I know exists, my leg is that and more. » Donc l'idée, c'est que finalement, si vous comparez ce que vous ressentez par rapport à votre rein ou n'importe quelle partie, quel organe, vous savez que c'est une partie de vous, vous savez que c'est votre corps. Mais pour autant, là, on a l'impression que c'est vraiment une sorte de chose où il n'y a aucune phénoménologie particulière, c'est juste une pure connaissance sémantique. En revanche, quand on pense, par exemple, à sa main, à sa jambe, là, on a l'impression qu'il y a, vous savez que c'est votre corps, mais il y a aussi quelque chose de plus, une sorte de différence phénoménologique entre votre appréhension de votre rein, on va dire, et l'appréhension de votre jambe. Ou de vos mains. Et c'est ce qu'on pourrait appeler finalement un feeling of ownership, un sentiment d'appartenance du corps. Et on pourrait dire que dans un côté, dans le cas du rein, j'ai juste une pure connaissance, de l'autre côté, j'ai une sorte de conscience intuitive non conceptuelle que c'est mon corps. Hein, et que c'est ce qu'on appelle le feeling of ownership. C'est vraiment ce côté, je ressens et non pas je sais que c'est mon corps. Et donc, comme je vous ai dit, il y a à ce moment-là deux théories. Si on accepte cette hypothèse qu'il y a ce sentiment phénoménologique d'appartenance, soit on dit c'est un trait irréductible de mon expérience corporelle, de ma conscience du corps, soit on va dire non, en fait, il faut essayer de comprendre quelle en est l'origine et trouver quelle est la source de ce sentiment d'appartenance du corps dans des faits, dans des propriétés de la conscience corporelle. Bien sûr, à ce moment-là, si on prend l'approche réductionniste, ce qui est mon cas, il faut déterminer quels sont ces fait pertinent sur la conscience corporelle qui pourrait être à l'origine du sentiment d'appartenance du corps et comment ça se fait que ces particularités de la conscience corporelle peuvent susciter ce sentiment d'appartenance du corps. Donc je ne vais pas aller plus loin sur cette partie parce que c'était juste vraiment pour mettre sur la table en gros quelles sont les différentes conceptions et où est-ce que je me situe moi dans ces différentes conceptions. Donc ce que j'ai oublié de dire au début, c'est que si vous voulez poser des questions au fur et à mesure, on n'a pas besoin d'attendre la fin. Moi je pense que c'est mieux de voilà, si vous voulez, de les soulever au fur et à mesure. Mais je pense que ça, d'une certaine manière, c'est juste vraiment le point de départ. Quel va être l'objet de l'étude? C'est ça. C'est ce sentiment d'appartenance du corps. Après, on peut se demander, bon, comment va-t-on étudier ça? Parce que, alors, il y a le point de vue phénoménologique. On se dit, bon, bah, par la phénoménologie, je vais essayer d'avoir accès aux caractéristiques de ce sentiment d'appartenance du corps, à essayer de caractériser la conscience corporelle. Merleau-Ponty a fait un énorme travail là-dessus, a essayé de caractériser la conscience corporelle. Lui, la conscience corporelle, il l'a caractérisée principalement par rapport à la notion d'action. Il y a une autre approche qui va dire que, plus que de caractériser la conscience corporelle par la notion d'action, il serait peut-être bien de la caractériser par rapport à des notions de représentation mentale du corps. Ça, c'est une approche, par exemple, qui est adoptée par O'Shaughnessy. Et à ce moment-là, essayer de déterminer quels sont les différents types de représentations du corps. Donc la phénoménologie, on a vu, pour le sentiment d'appartenance du corps, finalement, ça ne nous donne pas grand-chose, on a un petit peu de mal. Mais donc on peut s'intéresser aussi aux méthodes scientifiques de l'étude du corps. Et ça, ça a été fait très très récemment, en fait. Ça fait à peu près, même pas 10 ans en gros, que la psychologie, les neurosciences, la psychiatrie s'est dit que la conscience de soi et le sentiment d'appartenance du corps pouvaient être un objet d'étude pour les sciences. Avant, on disait, bon, c'est du domaine du philosophe, on n'y touche pas, c'est trop complexe. Mais récemment, on s'est dit, bah, peut-être en fait, que c'est des questions qui peuvent être traitées. Et je pense que ça nous apporte vraiment des intuitions très intéressantes sur ce que peut être le sentiment d'appartenance du corps. Donc il y a deux moyens, en gros, pour étudier de manière scientifique le sentiment d'appartenance du corps. La première, c'est l'analyse, en fait, de partir de la neuropsychologie, c'est-à-dire de partir de l'analyse de déficits chez des patients qui ont une expérience de leur corps comme leur étant étranger. Je vais décrire plus en détail, et vous allez voir, il y a un certain nombre de patients qui vraiment ont l'impression que ce n'est pas leur propre corps. Et l'autre manière, ça va être de voir s'il est possible, finalement, une des questions que je soulevais au tout départ, est-ce qu'on peut avoir ce sentiment d'appartenance pour quelque chose qui est autre chose que mon corps biologique? Et on va voir qu'en fait, c'est possible d'induire un sentiment d'appartenance du corps, mais sur quelque chose, sur un objet qui est totalement externe. Donc, pour vous décrire brièvement ce phénomène, donc, on pourrait croire que le sentiment d'appartenance du corps, bon, bah, c'est une sorte de donnée, d'intuitif, et que, en gros, c'est infaillible et qu'on l'a forcément. C'est mon corps, et puis ça s'arrête là. On n'imagine pas des situations où on pourrait ressentir ce corps, mais pas comme ça aussi. Pourtant, en fait, il y a plusieurs syndromes, à la fois en psychiatrie et à la fois suite à des lésions cérébrales, où il y a une vraie rupture entre la conscience de soi et le corps, on n'a plus l'impression que le corps vous appartient. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à un sentiment d'appartenance au corps, le sentiment d'aliénation corporelle, au niveau phénoménologique, est beaucoup plus fort et intense. Donc alors, on sait quand on dit, bon, quand je disais, est-ce que c'est votre corps, est-ce que quand vous le vivez, vous avez l'impression que c'est vraiment votre corps, en gros, on n'était pas trop sûr. Mais alors, quand les gens n'ont pas l'impression que c'est leur corps, alors là, c'est traumatisant. Ils ont vraiment l'impression de quelque chose de très très fort, que ceci n'est pas leur corps, que ceci est vraiment quelque chose d'étranger à eux, et c'est terrifiant. Et donc, ce qui permet, c'est intéressant d'étudier ce syndrome d'aliénation, parce que en étudiant le syndrome d'aliénation, on va pouvoir peut-être éclairer qu'est-ce que c'est que la phénoménologie du sentiment d'appartenance du corps, juste en prenant l'effet inverse. Et en plus, on peut se dire que ce qui manque chez ces patients, finalement, c'est peut-être ce qui pourrait être à l'origine du sentiment d'appartenance du corps. Donc en regardant où ces patients ont des problèmes, on pourra comprendre quelle est la source du sentiment d'appartenance du corps. Donc je vais donner quelques exemples de patients en utilisant des citations. Donc une citation de Oliver Sacks, qui est un neurologue très connu, qui a fait plein de livres un petit peu de neurologie populaire, avec des cas souvent... c'est très distrayant, mais en même temps c'est très vrai. Et ce sont des vrais cas. Et en fait, là, dans un de ses livres, il décrit ce qui lui est arrivé à lui-même, où il a eu un accident et il s'est cassé la jambe, il s'est retrouvé dans un plâtre pendant un certain nombre de mois. Et il y a un moment donné où en fait il a l'impression que sa jambe qui était dans le plâtre n'était plus la sienne. Et en fait c'est un phénomène qui s'appelle l'exclusion segmentaire et qui arrive pour à peu près n'importe qui quand on a été immobilisé pendant un certain temps. Il y a un fait que même après quand on vous enlève le plâtre, il y a un petit délai avant que vous ayez vraiment l'impression que vous remettiez vraiment à vous servir de votre bras, ou que vous ayez vraiment l'impression que ce bras est de la même nature, vous avez la même relation au bras qui a été plâtré que par rapport à l'autre bras. Et vous avez l'impression, un peu une sorte de sentiment d'aliénation, et lui, c'était assez fort dans son cas. Et donc, ce qu'il dit, c'est « I knew not my leg. It was utterly strange, not mine, unfamiliar. I gazed upon it with absolute non-recognition. The more I gazed at that cylinder of chalk, the more alien and incomprehensible it appeared to me. I could no longer feel it as mine, as a part of me. It seems to bear no relation whatever to me. It was absolutely not me. And yet, impossibly, it was attached to me, and even more impossibly, continuous with me. So, » Donc il avait vraiment conscience que la jambe était vraiment au bout de son corps, il n'était pas délirant ni rien, mais pour autant, cette jambe, il avait ce sentiment très très fort que cette jambe ne lui appartenait pas. Alors,
est-ce qu'il a encore de la proprioception?
Il avait la proprioception, il avait tout qui marchait, mais pour autant, il avait ça. C'est juste que ça avait été immobilisé. Un autre cas, alors ça c'est après des lésions cérébrales, ou ce qui s'appelle le syndrome de somatoparaphrénie. Et en fait, c'est des patients qui de nouveau vont dire qu'une partie de leur corps ne leur appartient pas. Et par exemple, ce patient, whose arm is this? It's not mine. Whose is it? It's my mother's. Donc un des trucs frappants dans ce syndrome, c'est qu'ils ont tendance à dire non seulement c'est pas moi, mais en plus ça appartient à quelqu'un d'autre. Pour expliquer, là, il faut que ça appartient, un corps ça appartient forcément à quelqu'un. Donc, puisque c'est pas à moi, c'est que ça doit appartenir à quelqu'un d'autre. Donc pour ce patient, lui, il disait que c'était sa mère. Et quand le médecin demande « How on earth does it happen to be there ?»« I don't know, I found it in my bed. » Et Oliver Sacks reporte aussi le cas d'un patient comme ça. Il disait qu'il ne comprenait pas parce que ce patient n'arrêtait pas de tomber de son lit et d'hôpital. Et en fait, c'est parce qu'il avait l'impression que lui, c'était sa jambe, n'était pas à lui. Et donc il essayait, il avait cette espèce de jambe, des trucs étranges dans son lit, c'était un truc un peu glauque d'une certaine manière, et donc il essayait d'enlever cette jambe hors du lit, parce qu'elle n'avait rien à faire sur son lit. Et donc il tirait sur la jambe et forcément il tombait par terre. Et donc ce patient, quand on lui demande « Where's your left arm ?»« It's under there, look it's queer, but that's how it is, just fancy finding your son's arm in your bed. » Donc il a vraiment l'impression, en plus là il a changé, au départ c'est sa mère, maintenant c'est celui de son fils. Mais il a vraiment l'impression que c'est à quelqu'un d'autre et il se rend compte que c'est un peu bizarre d'avoir cette partie de ce corps qui appartient à un autre qui soit attachée à son propre corps. Et donc certains patients vont dire que ça appartient à un membre de leur famille, ils peuvent aussi tout autre juste les personnaliser et dire bon, ça a un peu sa propre existence. Donc ça aurait... Et le fait que la personne à qui ils attribuent ne soit pas dans la chambre d'hôpital, ça ne change strictement rien. Un autre syndrome qui se trouve là en psychiatrie, c'est le syndrome de dépersonnalisation. Alors les personnes qui souffrent de dépersonnalisation, c'est souvent des gens qui souffrent de dépression aiguë et qui ont une sorte de détachement par rapport au monde de manière générale. Ils ont l'impression que de voir tout à distance et de se sentir un peu comme s'il y avait toujours une vitre entre eux et le monde et sentir détaché. Et donc là, un patient qui dit... I feel like a robot, I'm listening to someone else talking, like I am looking at myself from the outside. But it is not another voice of our body, it's mine, it is me, it just doesn't feel like it. Ce qui est intéressant là, par exemple, c'est que ce patient, on pourrait dire qu'il a, je disais qu'on séparait le sentiment d'appartenance et le jugement d'appartenance. Donc là, il a une connaissance, il sait que c'est son corps, il sait que c'est lui, mais pour autant, il n'a pas la phénoménologie associée avec le fait que ce soit bien lui. Et donc un autre patient là, qui dit « My hand do not seem to be mine, the top of my head often seems to disappear. » Donc aussi ces patients, ils peuvent sans doute avoir l'impression que carrément leur corps disparaît. C'est soit ça ne leur appartient pas, soit leur corps disparaît. Et enfin, un dernier syndrome qui est le plus frappant, peut-être parce qu'il est conduit aux conditions, aux conséquences les plus tragiques, c'est ce qu'on appelle le Body Integrity Identity Disorder. Et en fait, ces patients, bon, ils ont toujours la même phénoménologie, donc ils ont toujours l'impression que ça ne leur appartient pas, leur corps. Mais eux, ils ont tellement l'impression que ça ne leur appartient pas, c'est pas juste qu'ils essayent de jeter la jambe en dehors du lit, c'est qu'ils essayent de la couper. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire des auto-amputations. Donc ils vont demander à des chirurgiens de se faire amputer de cette partie du corps qui finalement ne leur appartient pas. Et si les chirurgiens refusent, comme dans certains pays, parce que pour des raisons éthiques cette fois-ci, on considère qu'on ne peut pas accepter d'amputer quelqu'un d'un membre qui est parfaitement sain, à ce moment-là, ils peuvent le faire eux-mêmes, dans des conditions que vous pouvez même imaginer, qui sont assez atroces. Donc, comme ça, des citations de ces patients, « My left foot was not part of me. I didn't understand why, but I knew I didn't want my leg. » Or, « I feel like an amputee with natural prosthesis. They are my legs, but I want to get rid of them. They don't fit my body image. » Or, « I don't fit where I don't know or understand what comes from or what it is. I just don't want legs. Inside, I feel that my legs don't belong to me. » It shouldn't be there. Donc vous voyez de nouveau ce sentiment d'aliénation qui vraiment, eux, les conduit à vouloir se débarrasser de la partie qui leur est étrangère. Ce qui est somme toute une réaction potentiellement assez logique quand on sent vraiment que ça nous appartient. Donc là, ce qui est intéressant, c'était pour revenir à cette dissociation entre d'un côté le jugement et de l'autre côté le sentiment, c'est que là, on a un peu tous les cas. Par exemple, dans le cas de la dépersonnalisation, clairement, les gens ont l'impression, ressentent ce corps comme étranger, mais pour autant, ils ont conscience qu'ils sont que c'est juste une impression, c'est juste une illusion, et que c'est bien leur corps. Mais ils le ressentent comme étranger. D'autres patients, comme les patients somatoparaphréniques, en fait, c'est les deux. Ils ont l'impression ils ressentent ce corps comme étranger, et en plus, ils sont convaincus que le corps ne leur appartient pas. C'est vraiment, eux, ils ont les deux qui vont ensemble. Et il y a la question aussi, on peut imaginer qu'on peut ressentir son corps comme étant le sien, mais pour autant juger que ce n'est pas le sien. Et une question qu'on peut se demander, si c'est les derniers cas de patients, en fait, les patients avec le Body Identity Integrity Disorder, ne seraient pas dans ce cas, parce que ce n'est pas très sûr, en fait. On n'a pas pour l'instant tellement de raisons, on ne comprend pas tout à fait pourquoi ils ne ressentiraient pas le corps comme étant leur. Donc leur cas, eux, est le moins clair. Et on pourrait imaginer que c'est une situation où eux, ils ressentent le corps comme étant le leur, mais pour autant, ils jugent que ce n'est pas le leur. Et maintenant, je voudrais parler d'un autre moyen d'étudier le sentiment d'appartenance. Et pour ça, je demandais à mon assistant préféré de venir me rejoindre. Parce que comme les assistants, ils ont toujours un assistant. Il n'a pas voulu mettre de robe à paillettes, malheureusement. Mais voilà. Voilà, la vitamine. Donc, je voudrais un volontaire dans la salle. On va prendre Cyril.
Non. Je suis le seul qui peut échapper à ça.
Bah non. Cyril, je propose que tu essaies.
Là, c'est dur.
Il faut que tu contribues un petit peu.
On peut s'installer.
Peut-être sur la table là-bas.
Mais il faut. Il faut quelque chose pour séparer les deux.
Qu'est-ce que j'ai?
Un ordi.
Donc ça s'appelle l'illusion de la main en caoutchouc. Donc vous voyez la main en caoutchouc. Je suis désolée, celle-là n'est pas très belle. C'est une main tout droit sortie d'un magasin d'Halloween. Mais bon, tout le monde peut la voir. Il n'y a pas de... Allez, Cyril.
Comment ça? C'est une main droite en plus.
Là, tu vas mettre ta main gauche et droite ici.
On va la
couper. On va greffer cette main.
Il faut que tu regardes la main en caoutchouc.
Ouais. Il faut que tu regardes toujours la main en caoutchouc.
Si quelqu'un veut faire des photos, je pense que c'est maintenant pour faire chanter Cyril plus tard.
Bon, tant que je ne tombe pas de la chaise en poussant ma jambe.
Thank you. Il faut pas que tu regardes en arrière, tu regardes la main. Regarde la main.
Je regarde la main.
Oui, 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 tu as toujours la main.
Je ne
triche
pas.
Eh oui. Concentré sur la main.
Donc pour les autres, il passe sur mon doigt et le même doigt que la main en caoutchouc. Mais il y a un moment, ça va changer. Ce que j'aimerais, c'est voir si j'arrive à lever un doigt de la main.
Est-ce que tu as l'impression que la perception, elle provient d'où, la perception tactile?
Ah, c'est ça la question. La perception tactile, non, je la sens dans ma main. Et peut-être que je suis...
Essaye en asynchrone.
En asynchrone?
Ouais. C'est peut-être fait bizarre là.
Oh, c'est une expérience curieuse, mais je peux pas dire, je le sens dans ma main. En tout cas, la sensation tactile. Mais est-ce que je dois être utile à l'exposer ou au contraire être un contre-exemple? J'ai très envie d'être un contre-exemple, mais je ne pense pas que ça soit...
Non, alors, le fait est que tout le monde n'est pas sensible à l'illusion.
D'accord.
Hein. Donc on pourra réessayer. De toute façon, la main va rester volonté pendant toute l'école, donc on pourra réessayer avec une explication plus large de ce
sujet. C'est pas très élégant de ma part de ne pas faire fonctionner l'exposé, mais je ne...
Bah, moi, on n'a pas à tricher.
C'était trop contracté, l'exposé. Ouais.
En gros, voilà, c'est si, avait été plus conciliant.
Mais ça a quand même été dit que l'expérience était bizarre. Il a, tu as quand même dit que l'expérience était bizarre.
Oui, non. C'est troublant.
C'est troublant. Donc, on a déjà des vues.
Parce que vu de l'extérieur, il n'y a rien de troublant quand même.
Non, vu de l'extérieur, il n'y a rien.
L'extérieur, il n'y a rien de troublant.
Non, ben venez. Déjà, de façon à voir cette main devant vous, ça vous met dans un état un peu.
Tu poses.
Non, mais peut-être faudrait faire sur quelqu'un si ça te
on
le fera après, à la pause.
On le fera après, ouais.
On le fait après-midi, on
s'amuse.
C'est moi.
Ah bah non, il n'y avait pas de volontaire au départ.
D'abord, regarde.
Bon, bref, si Cyril avait été plus conciliant, voilà ce qu'il aurait dû ressentir.
Mais tu sais, ça marche.
Il aurait dû ressentir que la sensation de toucher, en fait, la sentir sur... Sentir que c'était... qu'il sentait le toucher sur la main en caoutchouc. Ouais.
J'ai compris que ça, on pouvait avoir cette illusion si on était très...
Alors, il y a aussi ce que tu aurais pu sentir, c'est que tu avais l'impression que la main en caoutchouc était ta propre main. Et en fait, quand on demande au sujet ce qu'on fait, c'est qu'on demande au sujet est-ce que vous avez l'impression que la main en caoutchouc est votre propre main? Et les sujets doivent répondre sur une échelle, je crois, de 1 à 7. Et donc, 1, ils ont pas du tout l'impression que c'est leur propre main. Et 7, ils ont l'impression assez fort que c'est leur propre main. Et on s'aperçoit qu'ils ont tendance à répondre plutôt comme si c'était leur propre main que comme si c'était pas leur propre main. Et donc, il y a même un sujet qui dit, écrit comme ça, « I found myself looking at the dummy hand, thinking it was actually my own. » Et ça, c'est même pas quand on lui a demandé. Là, on a essayé de forcer Cyril à dire quelque chose, mais il a rien voulu dire. Mais là, c'était spontanément un sujet qui rapporte comme si vraiment il a l'impression que c'est sa propre main. Et aussi, quand on demande au sujet, donc là, vous avez vu, il y a les deux mains, quand on demande, on avait demandé à Cyril de fermer les yeux et de localiser où est-ce qu'il pensait que sa main était sur la table, en fait, il aurait eu l'impression qu'elle était plus proche de la main en caoutchouc qu'elle ne l'était. Donc il y a une sorte d'erreur de localisation de sa propre main en direction de la main en caoutchouc.
Oui. J'ai l'impression que sur le dispositif qu'on voit à l'écran, il y a une petite différence par rapport au dispositif qui avait.
Non, c'est un peu rigolé.
Mais c'est que là, le personnage à l'écran ne voit pas l'absence de lien entre la main
caoutchouc. Oui, non, la pompe, ça aide pour de faire ça, effectivement, d'avoir un truc où on a l'impression, en gros, qu'on met une sorte de
pas.
Mais en même temps, c'est pas forcément nécessaire. Ça aide. Donc oui, on pourra jouer avec ça après.
À partir du moment où la personne connaît le but de l'expérience, ça ne pose pas.
Non, parce qu'en fait, c'est. Déjà, là, ils ne savent pas ce que c'est, le but de l'expérience. Et ensuite, en fait, ce qu'on compare, c'est. Je vous ai dit à un moment, j'ai demandé à Andrea de passer à la condition asynchrone. C'est que là, au départ, c'est vraiment les mouvements des deux pinceaux sont exactement les mêmes sur les deux mains. À un moment donné, on fait ça de manière inversée, asynchrone. Et ce qu'on compare de manière scientifique, en fait, c'est en condition synchrone et en condition asynchrone. Et ça, il n'y a aucun moyen, quoi. Les sujets ne savent pas que. Ouais, et on compare à chaque fois.
Attends, dans le cas de Cyril, comme il sait à l'avance, est-ce qu'il peut.
Moi, personnellement, l'illusion, je suis capable de sentir qu'on me touche sur la main en caoutchouc. J'ai jamais réussi à sentir que la main en caoutchouc était la mienne. Et donc, je pense que. Et je crois que. Et j'ai essayé, on a beaucoup joué avec ça, hein, vous pouvez imaginer. Je l'ai fait avec NetBlock, entre autres, dans une autre école d'été. Et alors, NetBlock a fait un grand. Et alors qu'il connaissait très bien le truc, alors pour lui c'était totalement frappant et il avait l'impression donc il avait l'impression très forte. Donc je crois que c'est pas très clair en fait. En gros, il semblerait que ça ne soit pas influencé juste par une capacité de soit de connaissance avant, soit de crédulité ou de susceptibilité à l'hypnotisme ou tous ces trucs-là, ça n'influence pas. C'est vraiment, il semblerait, quelque chose de plus basique et de plus bas niveau que ça. Bon, alors, donc, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, cette illusion a été depuis pas mal repris par les philosophes. À la base, c'est un truc de psychologue, mais depuis tout. Alors, les psychologues ont dit, ça y est, on a trouvé le paradigme scientifique pour étudier le sentiment d'appartenance du corps. Mais bon, on peut quand même se poser quelques questions. D'abord, comme je vous ai dit, on demande au sujet est-ce que vous avez l'impression que c'est votre corps ou pas, dites-moi sur une échelle de 1 à 7. C'est pas du tout clair si le sujet est en train de rapporter son jugement d'appartenance ou son sentiment. À quel niveau on se trouve finalement ? Ça, c'est pas tout à fait clair. En plus, je vous ai dit, c'est sur un questionnaire, une échelle de 1 à 7. Qu'est-ce que ça veut dire en fait d'avoir une réponse oui, Marie-Christine.
Et qu'est-ce que ça. Enfin, vous n'avez pas essayé avec un questionnaire complètement ouvert, c'est-à-dire investigation du sentiment, voilà, décrivez-nous ce que vous ressentez tout simplement, en question ouverte.
En question ouverte, en gros, on a très souvent oui, c'est bizarre, ou des trucs totalement étranges. Oui, j'ai l'impression que ma main est plus large, ou. On a un petit peu de tout, et en général, ça ne donne pas grand-chose. Donc oui, spontanément, si on ne guide pas un tout petit peu, on n'a rien. Donc oui, on peut se demander si c'est valide à cause de ça. Mais il y a vraiment beaucoup de gens qui vont vous dire, en fait, cette illusion ne teste pas du tout le sentiment d'appartenance du corps. Hein. C'est juste une sorte d'artefact expérimental.
Est-ce que vous testez aussi le fonctionnement rationnel de la personne?
Alors, on ne teste pas, mais en même temps, quand même, il faut bien dire que ces études sont faites principalement dans des universités. Elles sont principalement testées avec des étudiants. Donc, on peut espérer que la population, entre autres, ça a été beaucoup fait à University College London. Donc, on peut espérer que la population de University College London est à peu près rationnelle. Et on peut espérer que NetBlock aussi était à peu près rationnel. Effectivement, on n'a pas contrôlé. Mais normalement, on prend avec des. Quand même, on contrôle qu'ils n'ont pas un passif psychiatrique ou des trucs comme ça. Mais c'est tout. Donc une autre question moi, qui philosophiquement est vraiment intéressante, c'est que là, on dit c'est de 1 à 7. Est-ce que ça veut dire que finalement, le sentiment d'appartenance du corps, c'est pas une question de tout ou rien, mais ça serait un truc quantitatif. On peut avoir un petit peu l'impression que c'est son corps, beaucoup l'impression que c'est son corps. En fait, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une mesure quantitative pour un sentiment d'appartenance du corps, alors que le corps, c'est ou le mien ou pas, ça c'est clairement une question de tout ou rien. Mais alors, est-ce que le sentiment d'appartenance du corps pourrait être une question quantitative ? Une autre chose mystérieuse sur laquelle je reviendrai, c'est que là, on a une situation où ça prend, en gros, normalement, quand tout marche bien, il faudrait pas Cyril comme sujet, à peu près autour de 2 minutes pour induire l'illusion. Mais en même temps, si vous regardez les patients qui sont amputés et à qui on greffe une nouvelle main, pour eux, ça prend des mois avant qu'ils aient l'impression que ça soit leur propre main. Donc, comment ça se fait que là, on a un phénomène qui soit si rapide, alors que dans des conditions, on va dire, plus médicales, ça peut prendre aussi longtemps? Et puis dernière question, jusqu'à présent je vous avais décrit des syndromes d'aliénation, quel est le rapport finalement entre le syndrome d'aliénation et ce genre d'illusion. Donc ça, c'est en gros les méthodes scientifiques qui existent pour essayer de comprendre le sentiment d'appartenance du corps. Maintenant, on peut se poser les questions. Oui, Marie-Christine.
Tu proposes une réponse par la suite pour les patients avec un bras artificiel ou pas?
Avec les... Non, c'était pas le bras artificiel. Non, c'est pas les prothèses, justement, c'est des vraies greffes. C'est des greffes de mains d'autres personnes. Qui, en fait, depuis l'an 2000, on peut greffer les mains d'autres personnes sur son propre corps. Avant, ça se faisait pas. Ça fait juste une dizaine d'années qu'on peut faire ça. Et quand on peut, maintenant, donc on a pu étudier leur description de ce qu'ils ressentent vis-à-vis de ces nouvelles mains qui appartenaient avant à quelqu'un. Et c'est là on s'aperçoit que ça met très très longtemps. Et non, je n'ai pas la réponse.
Et dans l'autogreffe, il n'y a aucun problème. Dans l'autogreffe. Quand quelqu'un a un bras coupé qu'on arrive à lui remettre,
il n'y a pas de problème.
Il n'y a jamais de...
Non.
Mais peut-être que tes sujets, enfin, ceux qui pour lesquels ça prend des mois, c'est parce qu'ils ont été amputés un moment ou qu'il faut réadapter le schéma moteur.
Alors, oui, après, non, je suis d'accord avec toi qu'on peut expliquer, on peut essayer de comprendre, etc. Mais c'est, ça reste quand même assez. Donc maintenant, quelles sont les fameuses bases de sentiment d'appartenance du corps? Alors là, on va revenir plus du côté philo. Et en fait, une théorie, une sorte de théorie instinctive et qu'on retrouve fréquemment dans la littérature en philosophie, c'est de dire que finalement, ce sentiment d'appartenance du corps, il trouverait son origine dans les sensations corporelles. En gros, ce qui distingue mon corps de votre corps, c'est que mon corps, je peux en avoir une expérience de l'intérieur, comme on dit, from the inside. Alors que votre corps, je ne peux que le voir, je n'ai pas ces sensations corporelles que je localise dans votre corps. Donc, l'origine de mon sentiment d'appartenance du corps, ça serait finalement ces sensations corporelles, puisque ça, normalement, je les ai que pour mon propre corps. Et ce qui fait qu'on a un peu une sorte de théorie générale qu'on retrouve.
Ouais. Vous n'entendez pas par une sensation de l'intérieur?
Ferme les yeux.
La perception tactile que j'ai de mon propre corps ressemble étrangement à la perception.
Ferme
tactile.
Les yeux. Ferme les yeux toujours. Est-ce que tu ressens tes doigts entrelacés?
Ouais.
Tu les ressens comment?
Tactilement, proprioceptivement.
Voilà, mais proprioceptivement, en gros, tactilement, proprioceptivement, tu as des sensations tactiles, la proprioception. Alors, la proprioception, c'est clairement juste quelque chose où tu as accès qu'à ton propre corps, donc c'est ce qu'on pourrait appeler de l'intérieur. Et tu ne vas pas l'avoir pour quelqu'un d'autre. Et tactilement, dans la sensation du toucher, c'est l'intérêt du toucher, c'est qu'il y a cette dualité où tu as à la fois un composant interoceptif, purement corporel, des sensations, et tu as le côté extéroceptif. Mais quand tu compares le touche en touché, le phénomène de touche en touché, quand tu te touches toi-même, tu sens bien qu'il y a une sorte, d'un côté, tu perçois ta main de l'extérieur, mais d'un côté, tu sens la sensation sur ta propre main de l'intérieur.
Oui, mais c'est exactement, enfin, c'est de l'intérieur, en fait, c'est juste une dualité, enfin, c'est juste qu'il y a une dualité entre la perception externe et la proprioception.
Et le toucher, mais aussi dans le toucher.
C'est pas entièrement de l'intérieur.
Je suis pas sûre de. Pourquoi tu trouves que dans la proprioception, c'est pas intégralement de l'intérieur?
La seule chose qui va faire la différence entre mon corps et celui d'un autre, c'est que quand j'ai une expérience avec mon propre corps, je peux mettre en opposition des sensations externes et des sensations internes. C'est cette opposition.
Mais par exemple, imaginons que nous ayons, on aime bien ce genre d'expérience de pensée, quelqu'un qui soit aveugle, sourd. Et à qui en gros il ne reste que le toucher, la proprioception. Puis il ne pourrait pas faire le contraste, mais pour autant il aurait une impression de.
Justement, il peut faire le contraste entre le tactile qui est externe et la proprioception qui est interne. Pas uniquement les indices internes qui vont. C'est justement ce conflit entre les deux qui vont permettre la perception du corps.
Je suis d'accord avec toi, mais la plupart des philosophes en fait te diraient que ce qui compte, c'est juste le fait que ça sorte de l'intérieur, qu'importe les interactions avec la perception de l'extérieur. Mais je suis d'accord avec toi, c'est ça. Mais la plupart vont dire que c'est vraiment juste les sensations corporelles et qu'un être qui n'aurait que des sensations corporelles sans rien avoir d'autre aurait quand même le sentiment d'appartenance du corps. Mais je suis d'accord avec toi que ça soulève des problèmes. Et donc l'idée, c'est donc d'opposer les sensations corporelles aux expériences visuelles du corps. que quand on fait juste voir, eh bien, il est supposé que quand on voit juste un corps, sans avoir son propre corps, sans avoir aucune expérience interne associée, aucune sensation corporelle associée, eh bien, on n'a pas ce sentiment d'appartenance au corps. Donc là, c'est Bill Brewer, c'est une citation de lui, et qui dit que, clearly, donc, le fait de sentir son corps comme étant le sien, is not and cannot be an external perceptual phenomenon. For when we perceive it from the outside, et par ça, il veut dire sur la base des sens externes, comme par exemple la vision, our body has no indelible stamp of ownership. It appears just as one object among many, also it is one whose feature we know very well. Donc l'idée, c'est que pour lui, c'est quand on a les sensations corporelles, on a vraiment ce sentiment d'appartenance du corps. Quand on a juste une expérience visuelle du corps, là, on sait qu'on a le jugement d'appartenance, mais on n'a pas le sentiment d'appartenance. Donc ça, c'est la théorie classique. Donc, c'est pas celle que je défends, c'est pour ça que j'avais aussi un peu mal. Mais en même temps, quoi, cette théorie, elle ne rend pas compte de deux phénomènes qui, pour moi, sont des phénomènes qu'il faut essayer de rendre compte si on veut avoir une théorie valide du sentiment d'appartenance du corps. Et c'est les suivants. Donc d'une part, on a vu que, bon, effectivement, c'est vrai que quand on fait juste voir un corps sans rien d'autre, on n'a pas ce stamp of ownership, comme dit Bill Brewer. Donc on n'a pas, ça n'induit pas un sentiment d'appartenance du corps. Et pourtant, on est capable, normalement, d'avoir un sentiment d'appartenance du corps pour une main en caoutchouc qu'on ne fait que voir, finalement. On a un accès qui est purement visuel. Donc comment ça se fait qu'on est capable d'avoir ce sentiment d'appartenance du corps pour la main en caoutchouc alors qu'on ne fait que la voir? Donc en gros, il faut essayer d'expliquer ça. Là, on a un cas où on n'a pas d'accès proprioceptif à la main en caoutchouc. On n'a pas d'accès, enfin, au niveau neurologique, en tout cas, on n'a rien qui nous relie à cette main en caoutchouc, et pourtant, on est capable d'avoir ce sentiment d'appartenance du corps. Et l'autre fait qu'il faut rendre compte, c'est essayer d'expliquer, enfin, cette fois-ci, on revient vers les personnes qui souffrent de syndrome d'aliénation, c'est comment est-il possible de souffrir d'aliénation vis-à-vis de son propre corps, et là, on revient à ta question, alors même qu'on est capable d'avoir des sensations dans ces parties de son corps. Donc je vais développer un petit peu ça parce que c'est important, mais l'idée c'est que vraiment ces patients, ils ressentent les sensations. Si on les touche, si on les passe, ils vont sentir qu'on les touche ou qu'on les passe, et ils vont continuer à dire que ce n'est pas leur propre main. Donc en gros, comment expliquer ces faits si c'est juste une sorte d'équation basique du style sensation corporelle et bien le sentiment d'appartenance du corps? Donc, en fait, la relation entre le sentiment d'appartenance du corps et les sensations corporelles est clairement compliquée. Parce que, d'abord, c'est pas comme si, dès qu'on vous enlève toute sensation corporelle, vous allez sentir votre corps comme étant étranger. Ça ne marche pas comme ça. Par exemple, si vous êtes anesthésié, vous n'allez pas pour autant dire que ce n'est pas votre corps. En fait, ils ont fait une étude, ils ont regardé ça, et sur les 36 sujets qui étaient anesthésiés, il n'y avait que 5 qui ont spontanément rapporté qu'ils ne sentaient pas que c'était leur propre corps, mais la plupart n'avaient aucun problème, ils sentaient bien que c'était leur propre corps. Donc, ce n'est pas comme si je ne sens plus mon corps, ce n'est plus mon corps. Ça ne marche pas comme ça. D'un autre côté, les sentiments d'aliénation ne sont pas toujours associés à l'absence de sensations corporelles, est-ce que c'est ce que je décrivais. Donc, ces patients aliénés, donc par exemple avec la somatoparathymie, sentent les sensations de toucher, sentent les sensations de douleur, et pour autant continuent à dire que ce n'est pas leur propre main. Ils ont conscience que c'est bizarre, ils ont conscience que c'est assez bizarre de ressentir le toucher dans la main de votre mère ou de leur nièce ou de je ne sais trop quoi, mais ils continuent à dire non, ce n'est pas ma main. Je ne ressens pas cette main comme étant la mienne. Donc il y a une sorte de lucidité, mais pour autant, ça ne les conduit pas à... Ouais.
Juste pour le premier cas, ouais. La question, est-ce qu'on fait bien attention que les gens remarquent que c'est une question un peu ambiguë, de dire, est-ce que c'est notre propre corps, est-ce qu'on le ressent comme notre propre corps? Vu qu'on n'a plus de sensation, il y a bien un sens que je peux comprendre que ce n'est pas mon corps, et un autre sens dans lequel je peux juger que...
Oui, non, je suis d'accord. Là, c'était vraiment essayer de... c'était peut-être de telle manière que ça soit le moins ambigu possible.
Et c'était vraiment, bon, question d'abord, est-ce que c'est votre corps ou pas? Est-ce que vous sentez ça quand même? Est-ce que vous avez l'impression comme si c'était pas votre corps? Donc il y avait utilisé beaucoup des comme si, ce qui permettait de, vraiment de dissocier entre le fait que est-ce que c'est votre corps ou pas, est-ce que vous êtes croyant, et un côté plus, est-ce que vous avez l'impression de... mais après, c'est toujours difficile dans ces cas-là, hein, d'aller... parce que c'est aussi, quoi, quand on pose trop de questions, on finit par créer la même. Donc c'est... mais en fait, on a, quoi, tout le monde a eu des anesthésies, et pour autant, c'est vrai qu'il n'y a rien qui nous frappe. Alors que ces patients que j'ai décrits, c'est vraiment quelque chose de très très fort, ces ressentis.
Mais justement, dans le cas des patients, je reviens sur la question de la rationalité. Ça, il semble que là, ils n'ont pas juste un problème de phénoménologie par rapport à leur corps.
Ils n'ont pas de problème de rationalité comme... en gros, il a été testé sur ces patients. Quoi. Pour les gens, vraiment un caoutchouc, là, je n'avais pas de réponse. Mais pour les patients, là, le raisonnement a été testé, il n'y a pas de problème.
Si je vois que la jambe, même si ce n'est pas la mienne, je vois qu'elle est attachée à mon corps, je sais que si je jette dehors la jambe...
Oui, mais regarde, c'est comme les phénomènes, par exemple, d'illusion visuelle, tu as beau savoir infiniment que, par exemple, les illusions visuelles, tu as beau savoir que les lignes sont exactement la même taille, parce que ça a toujours été, je ne sais pas, tu l'avais vu 150 fois cette illusion, et bien pour autant, tu ne peux pas t'empêcher de ressentir...
Ça c'est une chose, mais après si j'agis sur cette illusion, donc si maintenant les Müller, Laër, moi je vais dire, moi je parie tout mon argent qu'il y a une différence de longueur, ça serait irrationnel. Et si je jette la jambe dehors du lit, c'est irrationnel, c'est ça que je dis.
Oui, hein, je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord avec toi qu'il faut expliquer pourquoi ils ont décidé d'avoir ça. Mais tu pourrais imaginer en même temps que comme tu as tellement l'habitude... justement, sur le long terme, de savoir que c'est ton corps, le fait que ça manque, tu n'imagines même pas quoi, que ça puisse exister, ce genre de situation. Donc, tu te dis, c'est que forcément, ça doit être quelque chose d'étranger, parce que ça n'a jamais existé, ça n'existe pas, cette possibilité. C'est juste, c'est pas possible de ne pas ressentir son corps comme étant le sien. Et si tu es trop... Et tu pourrais dire, bah oui, c'est qu'il y a eu un truc. Surtout, c'est des patients quand même qui se réveillent à l'hôpital, qui ont eu... donc en général, quand il y a un accident cérébrovasculaire, il se réveille d'un coup, il se retrouve à l'hôpital, là il y a un truc bizarre, tu peux être persuadé qu'en fait, sans que tu, pendant que tu n'es pas conscient, on t'a fait une greffe, une prothèse, d'un truc que je ne sais pas trop quoi. Je suis d'accord que c'est bizarre, mais il faut aussi se remettre dans la situation.
Oui, mais ça risque de fausser les résultats si la personne ne réfléchit
pas. Mais je pense pas que pour autant, il faut dire que les personnes sont irrationnelles. Je pense qu'ils mettent, quand j'en reparle vendredi, demain, ils mettent plus de poids à d'autres croyances qu'à d'autres, donc parce qu'ils ont un conflit de croyances en gros. Et c'est là où tu veux dire bah, pourquoi ils vont croire, ils vont mettre plus de poids à cette croyance-là qu'à une autre, mais pour autant, faut pas dire, quoi. Je pense pas qu'on puisse dire qu'ils soient irrationnels. Ouais, ça, après, ça dépend comment tu veux définir, mais en gros, ils n'acceptent pas.
Par exemple, là, dans le cas de somatoparaphrénie, c'était rationnel, c'est notamment la cohérence du discours. Elle a d'abord dit que c'était sa mère, après c'était son fils. C'est des bons symptômes pour dire qu'elle est irrationnelle.
Ça, d'accord. Ça, après, parce qu'en fait, dans le syndrome de somatoparaphrénie, il faut vraiment distinguer le côté, d'une part, l'aliénation, juste ça, d'autre part, l'attribution à autrui. On a vu qu'on pouvait avoir l'aliénation sans attribution à autrui. Je suis d'accord que l'attribution à autrui, là, pour le coup, c'est vraiment de l'ordre du délire et on a du mal à comprendre comment ça fonctionne et il y a des théories, mais rien de très convaincant et on ne sait pas en gros pourquoi telle personne ou telle autre, pourquoi dans un cas ils vont attribuer à autrui ou pas. Ça, je suis d'accord, ça, on ne le sait absolument pas. Mais juste l'aliénation, le fait même de l'aliénation, là, on ne peut pas dire qu'un sentiment, puisque justement j'ai dit que c'était au niveau du sentiment et pas du jugement, le sentiment ne peut pas être accusé d'être irrationnel. Mais je suis d'accord après qu'il y a des choses étranges de pourquoi ils vont. Mais il y a aussi la question de se dire est-ce que tu ne vas pas avoir des actions qui vont te reproduire plus par tes sentiments que par tes croyances.
Mais il faudrait que les sentiments soient rapportés de manière qui ne soit pas faussé, et dès qu'il y a la possibilité que le jugement est faussé, alors c'est possible que le fait de rapporter le sentiment soit faussé aussi.
Sauf, que le sentiment il est rapporté parfois en première personne, alors que c'est dans des cas de confabulation quand on leur dit bah alors c'est à qui, et à ce moment-là ils donnent la réponse ad hoc et ils s'en fichent qu'elle soit constante dans le temps, c'est juste donner une réponse parce qu'ils sont confrontés à une question médicale, donc ils comblent les vides, mais ça ne veut pas dire qu'ils soient, ils sont en enfin je sais pas si on peut comprendre directement en fait qu'ils sont en délire, c'est juste qu'ils confabulent parce qu'il y a un trou. Mais le sentiment, enfin le rapport en première personne, le témoignage en première personne, c'est quand même de dire ça m'appartient pas, et après on va confronter à la question bah alors c'est à qui, et bah je m'en fiche, je vous donne la réponse qui m'arrange, parce que le but c'est simplement de donner une réponse quoi. C'est de maintenir l'illusion que voilà, bon, tu veux une réponse, je t'en donne une, mais c'est pas
vrai. Je veux pas insister, mais dans un cas comme ça, ça serait pas la réponse logique d'une personne rationnelle de dire c'est le bras de ma mère qui va dire écoutez, j'ai aucune idée, moi je sens plus bras, je le sens pas comme le mien, je vais dire quelque chose comme ça, mais je vais pas commencer à inventer c'est le bras de ma mère.
C'est pourquoi je disais l'attribution, c'est un problème, mais le fait qu'il y a un fait brut d'aliénation, ça on peut pas le accuser de lien.
J'étais pas convaincue.
Et là quand j'ai écrit, c'est des patients qui, c'est pas une question de savoir à qui ils attribuent, là c'est juste une question. Vous êtes touché, oui. Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous avez le sentiment que c'est, à votre, c'est sur votre propre main? Ils disent non. Donc, ce n'est pas une question de savoir si vous l'attribuez ou pas. Donc, la question, comme je dis, donc, il faut essayer de rendre compte comment peut-on avoir du sentiment d'appartenance pour une main ou autre chose à côté, alors qu'on ne fait que l'avoir, et comment on est capable d'avoir un sentiment d'aliénation alors qu'on a des sensations corporelles. Et peut-être que pour éclairer ces deux problèmes, on peut essayer de comparer juste une situation de quand on se trouve face à un miroir avec l'illusion de la main en caoutchouc. Donc si vous êtes face à un miroir, bon, normalement vous savez que c'est une glace, voilà, vous savez que ça vous reflète, etc. Mais vous pouvez vous amuser à bouger pour voir que votre reflet bouge comme vous. Donc là on a une situation qui finalement ressemble assez à la situation de la main en caoutchouc. Parce que vous voyez, vous avez votre reflet, votre corps reflété, donc vous avez l'information visuelle, vous avez l'espèce de synchronie entre vos sensations corporelles, donc votre mouvement que vous ressentez, et ce que vous voyez la main reflétée qui bouge elle aussi, et pour autant on a l'impression qu'il y a une différence entre les deux situations. Et la question c'est pourquoi en gros, Dans le miroir, on ne ressent pas le corps reflété comme de la même manière qu'on ressent la main en caoutchouc. Donc moi, ce que je propose en fait, c'est que quand je vois un miroir, je sais, donc j'ai ce jugement d'appartenance de ma propre main, mais que la phénoménologie finalement n'est pas très différente, la phénoménologie d'appartenance n'est pas très différente de quand je vois ma photo d'identité ou ce genre de choses. En gros, il n'y a pas ce côté aussi fort et quoi, aussi ce sentiment de « c'est à moi » qu'on pourrait avoir quand on a des sensations corporelles ou quand on doit avoir l'illusion de la main en caoutchouc. Donc la différence entre ces deux situations, donc, accès visuel, synchronisation entre mon propre mouvement et le mouvement que je vois, c'est que, selon moi, dans l'illusion de la main en caoutchouc, normalement, on ressent des expériences tactiles dans la main en caoutchouc, on a l'impression que c'est la main en caoutchouc qui est touchée, alors que quand je regarde la main dans le miroir, je ne localise pas mes sensations corporelles dans la main reflétée dans le miroir. Je vais continuer à les localiser sur mon propre corps. En gros, je ne projette pas sur le corps reflété dans le miroir mes sensations corporelles, alors que je projette sur la main caoutchouc mes sensations corporelles. Et donc cette différence, je pense, peut nous aider à rendre compte du sentiment d'appartenance du corps. Et c'est ce que je défends, c'est ce que j'appelle une hypothèse spatiale du sentiment d'appartenance du corps. C'est donc cette idée sur la localisation des sensations corporelles. C'est pas seulement éprouver les sensations corporelles, mais savoir où est-ce que je localise ces sensations corporelles qui seraient à l'origine du sentiment d'appartenance du corps. Et donc, dans la main en caoutchouc, on pourrait dire que je ressens la main en caoutchouc comme étant la mienne, parce que je suis capable de localiser, parce que je localise mes sensations tactiles dans la main en caoutchouc. Et donc, de manière plus générale, l'idée, ça serait que le corps que je ressens comme étant le mien est le corps où je localise mes sensations corporelles. Et que ça serait ça, en fait, une manière de trouver l'origine du sentiment d'appartenance du corps, c'est finalement d'aller voir dans la spatialité des expériences corporelles, et que c'est ça qui serait l'origine. Donc l'idée, de nouveau, c'est « Ah ben, en caoutchouc, je la ressens comme la mienne, parce que... » Oui.
Est-ce qu'on a fait l'expérience, ça correspond à ce que vous êtes en train de dire, avec une main en caoutchouc qui serait justement très très loin?
Et alors là, ça ne marche pas.
Donc ça corrobore un petit
peu. Ouais. Donc je vais essayer de voir... En fait, le problème, c'est que d'une certaine manière, bon, je dis on a un mystère, c'est le sentiment d'appartenance du corps. Je dis, bon, bah, on va réduire ce mystère à la spatialité des expériences corporelles. Mais la spatialité des expériences corporelles, elle-même, est assez mystérieuse. Donc à ce moment-là, il faut essayer de comprendre la sens... comment fonctionne la spatialité des expériences corporelles. Et donc ça, j'y viens après. Donc...
Excuse-moi. Ouais. Localiser, c'est un verbe de quoi? Un jugement de connaissance, ça peut être une expérience?
Ça peut être une expérience. C'est où est-ce que, quand tu ressens une expérience corporelle, tu la ressens, je parle vraiment au niveau de l'expérience, comme une expérience tactile, tu ressens le toucher sur ta main.
Oui, non, mais ça, c'est ce qu'on veut expliquer en disant, ça veut dire que la localisation...
Sur la main. Disons que tu la ressens sur la main, on va dire. On va laisser le, ta main. Donc. Mais je ne suis pas sûre de...
Non, je me demandais si localiser, ça demandait un jugement.
Non.
Non.
Non, parce que par exemple, les bébés vont, vont localiser leurs sensations corporelles et vont être capables de faire la différence s'ils sont touchés. Et tu vas avoir un truc tout bête, c'est localiser, ça se traduit aussi par ta capacité à regarder là où tu as été touché ou à agir en conséquence. Ou,
Mais alors, les patients qui arrivent à localiser leurs sensations, mais pourtant n'ont pas l'expérience de pauvreté dans ces cas-là.
C'est un mystère qui arrive au bon problème. Donc, ça pourrait peut-être nous expliquer l'illusion de la main en caoutchouc avec... Alors ça, je ne vais pas y aller, je ne vais pas détailler parce qu'en gros, ça demanderait tout un autre cours, mais ça revient un peu à ce que tu voulais dire sur le fait qu'en fait, là, c'est pas comme si on pouvait juste isoler les sensations corporelles. Les sensations corporelles, en fait, sont en interaction, en contraste constant avec les expériences visuelles du propre corps. Et donc, en fait, très brièvement, ça, mais je ne veux pas m'y attarder, c'est qu'il y a beaucoup de résultats qui montrent que là où on va localiser les sensations corporelles, ce n'est pas juste sur la base des sensations corporelles, c'est aussi beaucoup sur la base de la vision. Et donc, ce qui explique pourquoi dans le cas de la main en caoutchouc, on est capable de localiser une sensation dans la main en caoutchouc, c'est parce que la plupart de nos sensations, en fait, sont très fortement influencées par la vision. Mais ça, je pense que ce n'est pas vraiment le truc qui est important ici. C'est un autre aspect, moi, qui m'intéresse, c'est la question des... Comment traduire ça des bodily feelings, par rapport à bodily sensations. Bref, il y a David Armstrong qui fait une distinction entre les sensations d'un côté et les sentiments de l'autre. Et par sentiment corporel, il veut dire par exemple la faim, la soif, la fatigue. Et l'idée de faire cette distinction, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que alors que les sensations corporelles, donc le toucher, la proprioception, la douleur, vont nous donner un sentiment d'appartenance, quand je vous dis j'ai faim, par exemple, ça ne véhicule pas ce même sentiment d'appartenance. On voit mal comment la question du sentiment d'appartenance du corps se pose quand on dit j'ai faim. En gros, on pourrait imaginer être un cerveau dans une cuve qui pourrait avoir faim. Alors qu'on pourrait avoir dans une cuve, pourrait avoir aussi l'impression des sensations tactiles, mais il y a moins de comment dire ça. D'une certaine manière, ça nous donne moins le corps que les sensations tactiles ou les sensations proprioceptives. Parce que l'hypothèse, ça serait qu'en fait, les sentiments corporels ne sont pas localisés dans le corps. Ça décrit un état de la personne, mais c'est pas clair que ça décrit un état du corps. En tout cas, il n'y a pas de lien direct entre les deux. Quoi, il y a pas de. Ça demande quelques suppositions supplémentaires. Et donc, on va s'attribuer un sentiment corporel. On va dire j'ai soif. Mais on ne va pas dire que j'ai soif dans une partie du corps, on ne va pas dire mon corps a soif. On va dire, en premier lieu, on va dire j'ai soif.
On ne va jamais,
pratiquement,
du coup, faire boire un autre.
Faire boire un autre ?
Pour épancher sa soif, c'est-à-dire qu'on, oui. On localise.
Oui, non, ça paraîtrait.
Alors, vous pourrez penser la main d'un autre. Ouais. Donc, là, ça va dans le sens.
Oui, mais c'est là où on a.
J'ai froid et je donne.
Je donne à manger.
Sucre à ma voisine.
Non, mais est-ce que c'est à ta voisine ou c'est au corps de ta voisine? Là, pour le coup, on tombe dans l'ambiguïté de savoir si tes attributs, tu vois.
Mais je peux, visiblement, pour les sensations, sans localiser dans la main de ma voisine quelque chose. Mais je peux pas. Si j'ai faim, alors on va pas dire que je localise la faim,
oui.
Mais l'action pratique qui consiste à manger, je peux pas être de porter de la nourriture dans un autre corps que.
Oui, mais si tu, si par exemple tu as une sensation de brûlure sur ta main, tu vas pas non plus aller sauver la main de ta voisine.
Non, mais je pourrais localiser la brûlure dans la main de ma voisine.
Dans certaines circonstances, ouais.
Et du coup, avoir une action qui en témoigne.
Oui, mais alors là, en fait, on pourrait avoir un argument un peu à la Wittgenstein en disant bah, c'est justement parce que c'est pas possible de localiser ailleurs, ou de, parce qu'on finalement la localise pas. Que finalement, ça ne nous donne pas ce sentiment d'appartenance du corps. Pourrais-je, oui. Bref, l'idée que moi j'aimerais défendre, enfin, c'est plus ou moins ça, quoi. C'est vraiment, c'est parce que je ne localise pas mes sentiments corporels, je ne localise pas la soif ou la faim, que je n'aurai pas ce sentiment d'appartenance. Mais bon, ça c'est juste, c'est l'avantage, c'est un des avantages de la théorie spatiale. Mais le problème, comme disait Andrea, c'est comment on explique à ce moment-là les patients qui pour autant sont capables de sentir le toucher dans la main. Donc, ils ne vont pas dire dans leur main, mais ils sont capables de sentir le toucher dans la main. Donc on a l'impression que d'une certaine manière, ces patients, ils sont capables de localiser la sensation. Et pour autant, ils n'ont pas de sentiment d'appartenance. Donc si la localisation était à l'origine de l'appartenance, alors ça ne devrait pas marcher. Donc est-ce que ça montre que finalement cette hypothèse spatiale ne marche pas ? Alors là, je pense que c'est important de rentrer un peu plus dans les détails. Et en fait, ce que je vais essayer, c'est de sauver l'hypothèse spatiale en disant que les sensations corporelles peuvent être localisées par rapport à différents cadres référentiels spatiaux. Donc c'est pas comme s'il y avait qu'un seul cadre référentiel spatial possible, mais on peut imaginer qu'on localise le toucher par rapport à l'intégralité de mon propre corps, du corps que je ressens comme mien, ou dans la main, ou je peux le localiser sur, par rapport en fait au monde externe. Donc il y a deux référentiels, un référentiel purement corporel, de mon propre corps, et un référentiel qui serait plus un référentiel externe, et qui est le référentiel, par exemple, comme je pourrais localiser le toucher sur ma main, comme je pourrais localiser une tache rouge sur ma propre main ou la main de quelqu'un d'autre. Et donc il y a ces deux référentiels, le référentiel externe, le référentiel corporel. Et si on dit qu'il n'y en a qu'un seul qui permet vraiment d'être à l'origine du sentiment d'appartenance, alors le fait que les patients peuvent quand même localiser leur expérience n'indique pas forcément que c'est le bon type de cadre référentiel. Ils sont capables de localiser ça dans la main gauche, on va dire. Mais pour autant, s'ils le localisent non pas par rapport à un cadre référentiel de leur propre corps qu'ils représentent comme étant, pour la plupart, comme étant le leur, à ce moment-là, et s'ils le représentent juste comme un corps, une main dans le monde, à ce moment-là, on pourrait dire que ça ne suffit pas pour le sentiment d'appartenance. Alors, je vais essayer d'éclaircir un petit peu. Donc,
ouais. Déjà, ça présuppose que non, continue.
Pourtant, t'étais bien sur les boutiques, tu avais avancé bien les objections à l'avance. Donc, alors pourquoi le cadre, si on dit, bon, il y a plusieurs cadres référentiels, il n'y en a qu'un seul finalement qui nous permet vraiment d'être à l'origine du sentiment d'appartenance. On pose la question, pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? En gros, qu'est-ce qui caractérise le référentiel corporel par rapport à notre référentiel? Et particulièrement, on a dit que les expériences visuelles, ça ne suffisait pas pour avoir le sentiment d'appartenance du corps. Mais pourquoi la localisation dans le cas des expériences visuelles, en quoi c'est différent finalement de la localisation dans le cas des expériences corporelles? Quelle est la différence qui va faire dans un cas, ça va donner du du sentiment d'appartenance, et dans l'autre cas, ça ne va pas donner du sentiment d'appartenance. Alors, la meilleure description de cette théorie, en fait, ça a été fait par Mike Martin, qui lui a proposé, en fait, que la structure spatiale des expériences corporelles est telle que les sensations sont, de manière nécessaire, ressenties comme étant délimitées par les frontières de notre propre corps. Donc il dit qu'en gros, c'est juste impossible, dans sa théorie, de ressentir, de localiser des sensations corporelles dans quelque chose qu'on ne représente pas comme étant notre propre, qu'on ne ressent pas comme étant notre propre corps. Et donc, par conséquent, le référentiel corporel, en fait, c'est le référentiel de ce que nous vivons comme étant notre propre corps. Donc, par définition, d'une certaine manière, on obtient forcément quelque chose comme du sentiment d'appartenance. Et il fait un contraste avec les expériences visuelles. Donc ça, c'est la même chose que je disais. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a rien qui ira tomber en dehors de ce que j'éprouve comme étant mon corps. Donc quand je ressens une sensation corporelle, je ne le ressens pas dans un corps par contraste avec un autre corps, ou ça pourrait être un autre corps, je le ressens nécessairement comme étant dans ce que j'éprouve comme étant mon propre corps. Et donc le contraste qu'il fait avec les expériences visuelles, c'est que quand je vois un objet, en fait, l'objet n'est pas coextensif avec mon champ visuel. Je vois un objet, mais je le vois dans un monde où il y a d'autres objets. Et que même si j'avais une sorte de lunette où je ne voyais qu'un seul objet et je ne voyais pas tout ce qui est au fond, même là, en fait, ça ne serait pas éprouvé comme les seuls objets possibles que je pourrais voir dans mon champ visuel. Donc, selon lui, quand je vois par exemple une tache rouge sur ma main, je la vois comme sur ma main comme ça pourrait être sur bien d'autres mains. Quand je ressens une expérience corporelle, je vois ça comme étant sur mon propre corps et ça ne pourrait pas être sur un autre corps. Donc, ce qui caractériserait vraiment ce référentiel corporel, c'est que finalement, ça serait un référentiel qui délimite les frontières de mon corps. Et à partir du moment où je représente une sensation dans un espace qui est délimité par les frontières de mon corps, nécessairement, cette sensation se retrouve éprouvée dans mon corps et nécessairement, donc, j'ai ce sentiment d'appartenance du corps. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que finalement, on arrive à dire que la spatialité des expériences corporelles donc, pourrait être à l'origine du sentiment d'appartenance, mais uniquement à cause de cette espèce de particularité de la spatialité corporelle. Et effectivement, en dehors de cette question de savoir si c'est uniquement mon corps, il a été remarqué par beaucoup que la localisation des sensations corporelles est distincte de la localisation, par exemple, d'une localisation visuelle standard. Donc il y avait Merleau-Ponty qui disait, j'aurais d'ailleurs mettre la citation en français, je suis désolée, ces relations ordinaires spatiales ne traversent pas la frontière du corps propre. Mais c'est l'idée là que la manière dont nous localisons nos sensations corporelles, ça ne semble pas suivre les règles standards de l'espace. Et alors, il y a le cas très connu, il y a tout un cas, c'est le cas très connu. Donc, par exemple, il y avait Coburn qui disait que la douleur que j'ai dans la jambe n'est pas ressentie dans le frigidaire parce que ma jambe est dans le frigidaire. Bon, ça, d'accord. Mais on a donc une version qui a été après faite par Ned Block où il disait que la douleur dans mon pouce. Alors là, on pourrait dire oui, mais c'est parce qu'en fait, le frigidaire n'est pas ressenti dans mon référentiel corporel. Donc voilà. Alors, plus intéressant, finalement, c'est le cas proposé par Ned Block qui dit, lui, oui, la douleur que j'ai dans mon pouce n'est pas pour autant ressentie que mon pouce est dans ma bouche, et pour autant, je ne ressens pas une douleur dans ma bouche. Donc, il semble qu'on a un problème de transitivité spatiale. Là. Pourquoi il n'y a pas cette transitivité spatiale? Alors que là, on n'a que des parties qui, normalement, sont représentées dans le référentiel corporel. Et il y a Bermudez, lui, qui va plutôt s'intéresser au fait que, finalement, on ne peut pas vraiment parler de distance ou de direction quand on parle de l'espace corporel. Par exemple, ça n'a pas beaucoup de sens de dire que la douleur dans mon pouce est loin de la douleur de mon pied. On voit pas trop, enfin, on pourrait imaginer, mais spontanément, ça paraît pas être le même type. Alors, on n'a pas besoin de faire d'efforts pour imaginer que une personne est loin d'une autre. Pourquoi dans le cas, quand je les vois, pourquoi dans le cas de la douleur, ça ferait ça? Alors, La plupart de la littérature sur le sujet s'intéresse uniquement aux localisations de la douleur. Le problème de la douleur, bien entendu, c'est que ça reste un objet très mystérieux. Il y a des gens qui vont dire que c'est une forme de perception du corps, d'autres qui vont dire que ça n'est pas. Il y a beaucoup de débats, donc il y en a qui vont dire bon, ça n'a de toute façon pas de sens de se poser cette question, la douleur c'est dans le cerveau, etc. Donc il y a beaucoup de questions. Mais en fait, il y a pas mal de ces paradoxes, c'est pas des paradoxes, mais pour nous, ces mystères, qui pourraient se faire aussi pour le toucher. Est-ce que si je vous dis, j'ai ma main sur la tête, je suis touchée sur la main, est-ce qu'on va dire que je suis touchée sur la tête? C'est pas évident. En tout cas, la question se pose. Donc de nouveau, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des sortes de particularités des représentations de la localisation des sensations corporelles. Et qui donc permettrait d'expliquer finalement en partie le sentiment d'appartenance du corps. Donc, moi je vous ai décrit principalement la théorie de Mike Martin parce que c'est la plus développée. Mais lui, il se passe vraiment à un niveau purement phénoménologique, donc c'est tout sur où est-ce que j'éprouve la localisation des sensations corporelles et par rapport à comment j'éprouve les frontières de mon corps. Moi, ce qui m'intéresse, ce problème, c'est que je trouve, quoi, c'est très bien, mais c'est un bon point de départ, je trouve, mais seulement juste un point de départ. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, en fait, quelles sont les représentations mentales qui sont à l'origine de cette expérience phénoménologique. Et donc, on peut adopter, c'est pas vraiment une alternative, c'est plus essayer d'aller plus loin, d'approfondir, essayer de comprendre quelles sont les représentations corporelles qui, finalement, pourraient être à l'origine du sentiment d'appartenance du corps. Et d'autant plus que quand on regarde un petit peu toute la littérature sur le corps, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs types de représentations du corps, plusieurs types de représentations de l'espace corporel. Donc la question, c'est de savoir, ok, si on a toutes ces représentations de son propre corps, quelle est celle qui va vraiment être à l'origine, quelle est celle qui va être utilisée par le sentiment d'appartenance. Et alors là, comme je suis très très en retard, je vais sauter ça. Donc moi, ce que j'ai défendu, en fait, c'est l'idée qu'on ressent un sentiment d'appartenance sur les parties de son corps qui sont représentées dans ce que j'appelle le schéma corporel. Alors la notion de schéma corporel, en fait, elle remonte au début du siècle, début du 20e siècle, et c'est l'idée, finalement, qu'on représente son corps, qu'on aurait une représentation de son corps qui serait spécifique pour l'action. Donc quand j'agis, j'ai besoin de savoir où se trouve par exemple ma main, j'ai besoin de savoir quelle est la taille de mon bras, j'ai besoin de savoir quelle est la force de mon bras, j'ai besoin d'avoir toutes ces informations qui sont nécessaires pour pouvoir agir et que toutes ces informations seraient représentées dans ce qu'on appelle le schéma corporel. Et donc ce que je propose, c'est qu'on ressent un sentiment d'appartenance vis-à-vis des parties de son corps qui sont représentées dans le schéma corporel. Avec l'idée, c'est que le schéma corporel, comme c'est la représentation de son corps pour l'action, c'est quelque chose qui est purement spécifique à soi-même. Ça ne représente que son corps, parce que finalement, on a besoin d'avoir une représentation que de son propre corps pour pouvoir agir. Si on avait une représentation qui ne soit pas pour son corps, par exemple une représentation du corps pour l'action qui soit quelque chose de plus détaché, à ce moment-là, on pourrait imaginer que ma représentation visuelle de mon propre corps peut avoir beaucoup de points communs avec la représentation visuelle des corps d'autrui. L'intérêt, c'est que, très brièvement, c'est que les patients qui souffrent d'un phénomène d'aliénation, ils ont souvent aussi des problèmes de contrôle de leur corps. En fait, il n'y a aucun cas qui a été décrit dans la littérature où il y a de l'aliénation sans pour autant des problèmes de contrôle de son propre corps. Donc on a envie de lier ce phénomène d'aliénation avec l'action. Et en plus, ça permettrait d'expliquer pourquoi il y aurait finalement cette différence que j'ai décrite au départ entre, par exemple, la main, les jambes, etc., et les organes internes. Très clairement, on n'a pas de représentation des organes internes dans son schéma corporel parce que ça n'a pas beaucoup d'utilité pour pouvoir agir que de savoir qu'on a un rein ou d'autres parties du corps. Mais alors le problème, c'est qu'il y a deux difficultés que cette théorie doit résoudre. Et je ne sais pas, on a commencé en retard, alors je ne sais pas à quelle heure je suis supposée arrêter.
En fait, c'est censé être 10h30, mais on a une demi-heure de pause, donc j'imagine qu'on peut dépasser.
Je dépasse un petit peu, donc je vous dis les deux difficultés. Donc, la première difficulté, c'est les outils. Alors, ça c'est très vite. Hein. Les outils, en fait, il y a ça, une intuition qui remonte à très longtemps, hein, mais on avait des cartes qui décrivaient comment on pouvait sentir comment l'aveugle avec sa canne pouvait ressentir le monde dans la canne. Comment il pouvait avoir une sensation tactile au bout de sa canne. Depuis, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont montré que finalement, quand on utilisait des outils, il y avait toute la représentation de son corps qui s'adaptait par rapport à ça, de manière à inclure l'outil au sein de son schéma corporel. Et pour autant, très clairement, on ne ressent pas de sentiment d'appartenance vis-à-vis des outils. C'est ce que disait donc un scientifique qui s'appelle Bodvini, qui était celui qui est à l'origine de l'illusion de la main en caoutchouc. Il disait « The feeling of ownership that we have for our bodies clearly do not extend to, for instance, the fork we use at dinner. » Et pour autant, là, pendant tout le dîner, on va utiliser toute cette fourchette. Potentiellement, on peut sentir des sensations du petit poids qui s'échappe au bout de la fourchette, mais, et on va avoir l'impression, on va calibrer nos actions alors, en tenant compte de la longueur de la fourchette, et pour autant, même si on a l'impression d'inclure cette fourchette dans notre représentation du corps, on n'a pas de sentiment d'appartenance. Donc la question, c'est pourquoi. Alors, hop là, je vais faire ça vite. Donc, une réponse possible, ça serait de dire, d'accord, les outils sont incorporés dans notre schéma corporel, mais juste pour une période assez brève. Juste le temps qu'on utilise, et après, on regarde, disons, la dimension normale de notre corps. Donc, une fois qu'on a posé notre fourchette à la fin du dîner, on n'a pas l'impression que notre main va aller jusque-là, on sait bien que notre main s'arrête juste là. Et on pourrait dire qu'en fait, parler de schéma corporel, ça ne suffit pas. Il faut peut-être distinguer deux éléments au sein du schéma corporel. D'un côté, quelque chose d'assez à court terme. Par exemple, pour toutes les informations à court terme sur notre corps, style la position de notre corps. Ça, c'est un truc qu'il faut renouveler tout le temps parce que tout le temps, on est en train de bouger. Et donc, on a besoin de renouveler tout le temps. Donc, ça serait une représentation très court terme. Mais qu'on pourrait avoir pour l'action d'autres représentations qui seraient, elles, plus long terme. Par exemple, la taille de mon bras, c'est quelque chose, c'est une propriété long terme de mon corps. Je n'ai pas besoin de renouveler ça très souvent, quoi. Quand je grandis, mais une fois qu'on est à l'âge adulte, en gros, normalement, on n'a pas besoin de la renouveler. Et on pourrait dire finalement que les outils vont avoir un effet, mais uniquement sur la représentation à court terme, et pas sur la représentation à long terme. Ou une autre manière de le dire, ça serait de dire, bah, finalement, peut-être que le schéma corporel, c'est un peu comme un élastique, on peut l'étendre pour un certain moment, mais dès qu'on lâche, dès qu'on n'utilise plus l'outil, hop, on revient à une sorte de schéma corporel par défaut, qui serait cette représentation à long terme du corps pour l'action. Et ça pourrait peut-être expliquer pourquoi les outils ne sont pas ressentis comme étant partie de notre corps. Et ça pourrait être aussi intéressant parce qu'on a, à l'inverse, il y a certaines personnes qui utilisent, par exemple, les violonistes, quelquefois quand ils décrivent ce qu'ils ressentent, on a l'impression quasiment, alors après bien entendu on se base uniquement sur ce qu'ils disent et ça peut être très métaphorique, on ne sait pas, mais que le violon fait vraiment partie de leur corps. On a vraiment l'impression qu'ils voient qu'ils ont un sentiment d'appartenance du violon assez fort. Et on pourrait dire, oui, bah, peut-être que dans ce cas-là, comme il y a un usage vraiment intensif, c'est plus un effet à court terme, mais c'est vraiment un effet à long terme. Et ça pourrait peut-être expliquer ça, mais bon, ça c'est très, voilà, très spéculatif. Malgré tout, on a une autre objection à l'hypothèse du schéma corporel, et c'est pour en revenir à la main en caoutchouc.
Ouais. Juste pour les outils, en fait, il y a le cas des gens qui utilisent des prothèses, alors qu'en est-il, parce que là c'est un outil.
Alors, c'est très intéressant d'utiliser les gens qui utilisent des prothèses, parce qu'il y a vraiment à peu près toute la gamme d'attitudes. Il y a ceux qui disent qu'ils rejettent, qu'ils détestent. Il y a ceux qui vont dire, je les utilise, mais pour moi, c'est vraiment comme mes lunettes. C'est vraiment un outil comme mes lunettes, totalement extérieur à moi, que je pose, que j'enlève. Ça n'a pas plus de lien avec moi que mes lunettes. Et il y a ceux qui vont dire, c'est vraiment une partie de mon corps. Et par exemple, il y a des personnes qui décrivent qu'ils n'aimeraient pas que quelqu'un d'autre mette sa main sur le genou artificiel. Parce que c'est comme ça se fait, comme si c'était, tu vois, on mettait une main sur son vrai genou, pour lui, ça lui il ressent ça exactement de la même manière, comme une sorte de violation de son espace personnel.
Ouais. Excusez-moi, enfin, visiblement, vu que les gens qui ressentent que ça appartient à leur contrepartie, c'est des gens qui. Enfin, ça dépend de la fréquence d'utilisation de la prothèse, en fait, non?
Alors, ça, j'ai pas réussi à savoir si vraiment. Mais c'est vrai que ceux qui l'utilisent beaucoup, bah, en fait, voilà, ceux qui l'utilisent beaucoup semblent effectivement plus ressentir ça. Mais on ne sait pas dans quel sens ça va. C'est-ce que parce qu'ils ressentent ça qu'ils l'utilisent plus? Ou est-ce qu'ils ressentent, ou ils l'utilisent plus parce qu'ils ressentent ça, quoi. Donc ça, c'est...
Ouais, j'imagine qu'ils n'ont pas l'impression que ça appartient à leur propre corps la première fois qu'ils la mettent.
Oui, non, de toute façon, il y a un temps d'habituation, mais oui, et ils finissent par oublier qu'ils ne l'ont pas tout le temps. Donc, par exemple, il y a une personne qui décrivait qu'il l'enlevait quand c'était une prothèse de jambe, il l'enlevait le soir pour se coucher, mais qu'il se levait, il était capable de se lever au milieu de la nuit, oubliant totalement qu'il ne l'avait pas mise, parce que pour lui, elle est vraiment là, tout le temps. Donc, ouais. Donc on peut se dire que là, elle a vraiment été incorporée de manière à long terme. Ouais.
Juste sur la modification, de, donc, selon que l'hypothèse du schéma corporel, si on prend l'exemple comme outil typique, la voiture,
ouais.
le fait que quand on écrase un lapin, on sent vraiment, on a l'impression que c'est nous qui écrasons le lapin et pas la voiture. Donc oui. Voilà, donc mon schéma corporel s'étend jusqu'au pneu. Mais dans la voiture, donc pendant une voiture,
aussi, on peut aussi... Si, quand on passe dans un tunnel, moi je baisse la tête.
Voilà. Mais est-ce que dans une voiture, par exemple, je pourrais aussi me concentrer, selon ton hypothèse, je vais changer sans arrêt le schéma corporel. Imagine qu'à la seconde suivante, je me dis que je suis mal assis. Alors cette fois-ci, mon schéma corporel s'arrête. Ouais. Donc là, tu soutiendrais que...
On peut, ouais, on peut passer.
Et ce serait incompatible, bien sûr. Je ne pourrais pas, par exemple, sentir en même temps le lapin. Et,
non, je pense que tu pourrais pas.
Et à son mode, tu oublies tes fesses, en fait.
Oui, c'est un peu ça l'idée. Ouais.
D'accord.
Donc voilà, une autre objection possible qu'on pourrait faire à l'hypothèse du schéma corporel, c'est d'en revenir à tes bras, mains, fesses, chaud.
Ouais, juste un truc, parce que c'est, comme tu disais tout à l'heure, il y a des organes qu'on perçoit plus comme les nôtres, la main, le pied et les organes mammaires, peut-être moins. Et là, on oublie les fesses, ça vient nous faire tiquer. C'est peut-être juste qu'on perçoit plus comme nous les limites, quoi, de notre corps. Alors si on intègre la voiture, on va sentir le lapin parce qu'il est sur la limite, mais on oublie les fesses parce que ça devient un organe interne, quoi. C'est à l'intérieur de la globalité, et ça pourrait, l'effet de limite pourrait peut-être être interrogé, du coup.
Ouais. Donc pour en revenir à la main en caoutchouc, je vous ai dit qu'une des caractéristiques, c'est qu'on finit par faire une erreur de localisation de là où est sa main, sur la table. Donc en général, on demande au sujet où est-ce que vous sentez votre main, et il doit indiquer où est-ce qu'il sent sa main. Mais alors ce qu'on a fait, un truc plus bête, c'est qu'on a demandé, au lieu non pas de où est-ce que vous sentez, de dire verbalement, en gros, on leur a demandé de faire une réponse motrice où, en gros, là, donc, là, c'est la vraie main, hein. Là, c'est la main en caoutchouc. Et on demande au sujet, bon, bah, allez, avec votre autre main, celle qui n'a pas été stimulée par le pinceau, allez chercher votre main, en gros. Et là, on s'aperçoit qu'il n'y a absolument aucun effet de l'illusion. Et si on dit que la main caoutchouc, on ressent un sentiment d'appartenance parce que, selon l'hypothèse, c'est vrai que parce qu'elle soit intégrée dans le schéma corporel, en même temps, le schéma corporel, là, il semble être totalement correct puisqu'il représente bien la main à la bonne localisation. Donc il semble qu'il n'y a pas de problème, c'est pas au schéma corporel. Ouais.
La tâche motrice, c'était d'aller chercher la main ou de pointer la main?
De chercher la main, et on a fait plusieurs tâches motrices. Alors, il y avait soit d'aller faire ça, ça c'est la main qui a été caressée par le pinceau, ouais. Soit d'aller faire ça, saisir,
ouais.
Donc pas indiquer, hein, saisir, ouais. Soit avec celle qui a été caressée, d'aller saisir,
ouais.
Soit d'aller chercher un objet. D'accord. Avec les deux mains.
Et
dans aucun cas,
pointage.
On a quoi?
Il n'y avait pas de pointage?
Non, pas de pointage, parce que le pointage, c'est une mesure trop ambiguë, parce que justement, il y a un côté un peu communication. Et ça ne permet pas vraiment de... C'est pas vraiment un truc, une action pure, c'est plus...
Tout à l'heure, vous avez dit que théoriquement, la perception de la main, elle était entre... Enfin, la main avait...
Ouais, c'était de... c'était pas du pointage, non plus.
C'était comment que...
C'est... En fait, en gros, en général, il y a une règle qui est sur la tablette, là, et on dit, dites à quel chiffre vous considérez que votre main est.
D'accord, et c'est comme ça qu'on trouve une perception de la main décalée, mais par contre, il n'y en a pas dans le...
Ouais, voilà.
Vous avez enregistré la trajectoire du mouvement.
Donc on a enregistré la trajectoire du mouvement et on n'a absolument aucun effet de
l'illusion.
Rien du tout, ça a été répliqué depuis. Voilà, on était contents sur le moment, mais après j'avais pas compris que, j'ai pas compris qu'en fait ça rentrait totalement en contradiction avec ce que je disais dans un autre papier. C'est ça qui est génial quand on fait de la science. Donc là en gros c'est ce que je viens de dire. Donc, en gros, comment est-ce que c'est compatible, puisqu'il semblerait que la main en caoutchouc n'a pas mis dans le schéma corporel. Alors, une manière, une possible réponse, hein, ça c'est, je suis en train de réfléchir encore de comment répondre à ma propre objection, ça serait de dire, oui, mais en même temps, qu'est-ce qui se passe sur la vraie main, la main biologique? Est-ce que, si par exemple on dit que dans la main biologique, la main en caoutchouc, bon certes, je m'attribue la main en caoutchouc, mais pour autant, je m'attribue toujours ma main biologique. J'ai toujours la main biologique comme étant la mienne. Parce que, mine de rien, bon, j'ai peut-être plus mes sensations tactiles dans la main. J'ai mes sensations tactiles dans la main en caoutchouc, mais j'ai toujours mes sensations proprioceptives, on pourrait dire. Attends une seconde. Dans ma vraie main. Donc à ce moment-là, on pourrait dire, oui, bah, à ce moment-là, je me retrouve avec un schéma corporel, potentiellement, hein, ça c'est très de la spéculation, qui représente deux mains, la main en caoutchouc et la main biologique. Et à ce moment-là, si c'est le cas, est-ce que c'est vraiment un problème que j'utilise plus le référentiel de ma vraie main plutôt que le référentiel de la main en caoutchouc quand je guide mes actions? Ça ne montre pas forcément que la main en caoutchouc n'est pas encodée dans le schéma corporel, ça montre juste potentiellement que les deux mains y sont. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une autre étude qui a été faite, donc toujours par Marjolaine Kamers, qui montrait que si, en gros, la main en caoutchouc avait une forme comme ça, comme si elle allait saisir un objet, quoi, c'est un petit peu comme Manuel. Voilà. Donc, main en caoutchouc, vous voyez comme ça, donc avec les doigts pas très écartés, ou avec les doigts très écartés, et il fallait saisir un objet. Et on s'apercevait que quand il s'agissait de saisir un objet, donc de calibrer à quel point on allait faire une pince avec ses deux doigts, eh bien on était influencé par la position de la main en caoutchouc. Donc là, on a un cas où l'action semble, quoi, l'illusion semble avoir une influence sur l'action. Donc déjà, les résultats sont ambigus. Et surtout, on n'a pas de preuve qui est... parce qu'il y a certaines personnes qui ont dit « Oui, mais la main biologique, quand on s'attribue la main en caoutchouc, on rejette... on aliène la véritable main. » Et en fait, il n'y a aucune preuve de ça. Et ils ont essayé de montrer des preuves, mais il n'y en a aucune qui tienne vraiment. Surtout, il a été montré qu'on pouvait, si on mettait deux mains en caoutchouc, et qu'on stimulait tout ça en même temps, donc je stimule la vraie main plus les deux mains en caoutchouc, on est capable de ressentir les deux mains en caoutchouc comme étant les siennes. Donc il y avait des gens qui disaient, oui, mais on peut ressentir que deux mains comme étant les siennes. Voilà, il semblerait qu'on peut ressentir deux mains en caoutchouc plus deux mains biologiques comme étant les siennes. Donc en gros, il n'y a pas de preuve. Et il y a une autre étude encore plus récente qui a été montrée qu'en utilisant qu'une seule main en caoutchouc, mais en voyant la véritable main en même temps, on s'attribuait clairement et officiellement la propre main et la main en caoutchouc. Donc en gros, on peut imaginer que dans le schéma corporel, en tout cas la main biologique est toujours représentée, ce qui peut expliquer les résultats. Mais...
Les attributions sont toujours sur l'échelle de Rasset.
C'est toujours sur l'échelle pourrie de Rasset. Qui est vraiment pas idéal. Le problème, on garde quand même un problème, c'est que bah, ça met toujours que 2 minutes pour faire de cette fameuse illusion. Et pourquoi dans les greffes ça marche pas? Et pourquoi, moi si j'ai dit que c'était une question de schéma corporel à long terme, quelque chose par défaut, etc., comment ça se fait qu'en 2 minutes on pourrait modifier le truc de schéma corporel à long terme? Donc, alors, on pourrait proposer, alors vous me dites hein, quand je m'arrête, hein, moi je m'arrête que quand on me le dit, que finalement le schéma corporel, c'est pas la bonne hypothèse, et ce qu'il faudrait voir, c'est plus regarder non pas le corps avec lequel on agit, sur lequel on agit, mais le corps qu'on cherche à protéger, et on pourrait défendre, et ça a été fait un tout petit peu, mais de manière pas très explicite, une sorte d'hypothèse plus affective ou émotionnelle, avec l'idée que finalement je ressentirais comme étant le mien, le corps que je cherche à protéger, le corps que je m'inquiète pour lui, c'est le corps en gros pour lequel j'aurais le plus d'affinité émotionnelle. Ouais.
Il est même possible qu'en fonction des circonstances, le schéma change. Dans certaines circonstances, c'est le corps qu'on cherche à protéger parce que surgit le sens d'une situation qui, en quelque sorte, vient comme un virus contaminé, finalement, le schéma corporel, il vous donne...
Alors oui, parce qu'il va y avoir différentes théories. Il y en a qui vont dire que ça va être le schéma corporel qui peut être influencé par les circonstances affectives et émotionnelles. Il y en a d'autres qui vont dire que bah, c'est vraiment en fait, le corps que je cherche à protéger. En fait, c'est un autre type de représentation. En gros, on pourrait dissocier les deux. Donc ça, c'est pas très clair, mais je suis d'accord qu'on pourrait essayer comme ça. Mais de toute façon, je pense que cette théorie ne marche pas non plus. Donc l'intérêt, c'est que ça, pour les syndromes d'aliénation, bah, c'est souvent associé avec le fait que le genre déteste la partie du corps aliénée qui se ressemble comme aliénée. Donc on pourrait dire, oui, bah, en fait, ça va ensemble, il y a une sorte d'un côté affectif, de toute façon, dans les sentiments d'aliénation. Ça pourrait expliquer le cas pour les amputés qui se retrouvent avec une greffe de notre main, qu'il faut d'abord qu'ils s'approprient au sens affectif du terme. La main, parce que pour eux, au départ, c'est la main d'un homme mort, etc., d'un homme d'organe, etc. Ça pourrait aussi expliquer que ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on aurait dû peut-être faire avec Cyril, c'est que si jamais Andrea avait fait ça sur la main en caoutchouc, on aurait vu Cyril retirer sa propre main. Donc c'était mesuré qu'on réagit très vivement quand on attaque la main en caoutchouc après l'illusion de la main en caoutchouc. Et ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait aussi expliquer le cas des outils, parce que les outils, le fait est qu'on utilise les outils dans les situations dangereuses, on ne cherche pas à protéger les outils. Alors dans la voiture, c'est un petit peu différent, mais en même temps, on est dedans. Mais par exemple, pour revenir à l'histoire de la fourchette, on va mettre une fourchette dans un truc bouillant, voilà, on s'en fout, quoi, d'une certaine manière.
Enfin, on n'a pas de perception nociceptive sur la fourchette. Si on arrivait pour savoir mettre des récepteurs, à les connecter avec ce doigt,
oui, mais oui, non, tout à fait. Non, je suis d'accord avec toi. Mais le fait est que c'est après, tu peux dire que c'est là, je me situe à un niveau un peu plus supérieur, mais que ces représentations de ce qu'on va être, le corps qu'on protège, bien entendu, va être basé sur quel type d'information on reçoit sur ces objets. Donc, si tu reçois la nociception sur ton corps, c'est pour ça que ton corps va être représenté comme étant l'objet auquel tu tiens. Alors que la fourchette, effectivement, tu ne reçois pas d'informations nociceptives. Mais bon, la question, c'est si d'un coup, tu pouvais avoir l'illusion que la fourchette recevait la douleur, parce que dans la main de chou, on ne reçoit pas plus d'informations nociceptives, hein, et on réagit quand même.
Oui, mais c'est-à-dire que là, la main est une substitution. La main en caoutchouc, c'est une substitution de notre propre main.
Et bien non, justement, c'est l'idée, c'est qu'on on s'aligne pas par propre main, donc c'est plus qu'on ajoute. Alors pourquoi on est capable d'ajouter une main en caoutchouc et on ne serait pas capable d'ajouter.
On l'ajoute pas tant que ça, parce qu'au final, dans les balistiques du mouvement que vous avez montré, il n'y a pas de.
On l'ajoute en partie.
La question, c'est on l'ajoute, mais.
On l'ajoute suffisamment pour réagir, en tout cas. Si on l'agresse. Donc, mais de toute façon, moi, je ne pense pas que ce soit une théorie qui soit suffisamment convaincante parce que, en fait, d'une certaine manière, je n'ai pas d'argument radical contre, mais le fait est qu'elle ne permet pas du tout de dissocier, si savoir si c'est une cause ou une conséquence, en fait, l'attitude affective qu'on a vis-à-vis de son propre corps ou de la main en caoutchouc. Est-ce que c'est parce que j'ai un sentiment d'aliénation que je me mets à détester cette jambe? Ou est-ce que c'est parce que je déteste cette jambe que j'ai un sentiment d'aliénation? Pareil pour la main en caoutchouc. Est-ce que je ressens cette main comme étant la mienne parce que je suis prise d'amour pour la main en caoutchouc? Ou est-ce que c'est l'inverse? Donc le fait qu'on ait toujours l'association entre les deux, en gros, dans ce sens-là, ça ne veut rien dire, ça ne montre pas une équivalence. Et on pourrait, et de toute façon, je suis désolée, quoi, tous les gens qui ont des enfants, ils diraient que si tu vois la main de ton enfant se faire frappé par un marteau, tu réagiras probablement beaucoup plus vivement que si c'est la main en caoutchouc. Donc, le fait, on peut avoir des réactions affectives très fortes vis-à-vis du corps de quelqu'un d'autrui. Et ben, j'ai fini. Donc, voilà. Donc, juste pour la prochaine fois, je m'attaquerai à cette partie-là. Et merci. Et maintenant, on peut jouer avec la main en caoutchouc.